Enfin, on a tous vécu cette expérience d'aimer quelqu'un ou d'aimer quelque chose. C'est qu'il n'y a pas d'explication dans l'amour. L'amour, c'est comme ça. Ça nous tombe un jour, ça nous tombe un jour sur notre vie et la vie est changée, en fait. Et donc, moi, je vous vois là, le groupe de jeunes qui est venu. Tu as quel âge ? Ouais. T'as 21 ans. Ben, c'est précisément l'âge que j'avais quand je suis parti la première fois en Inde en 1997 pour vivre dans un bidonville de Madras. Et quand je suis parti, d'ailleurs, pour la petite histoire, je m'étais dit un an en Inde et après retour à ce qui était l'objet de tous mes désirs à l'époque, c'était la Grande Chartreuse qui est à côté. Donc voilà. J'étais un peu dévié parce que, en fait, ce peuple, il y a eu cette alliance avec ce peuple de l'Inde. Cet amour en fait qui maintenant a 22 ans, cet amour au long cours avec beaucoup d'inconnus parce que ça a été un parcours dans la foi aussi, comment je ferai pour revenir en Inde comme prêtre, avec quel visa, est-ce que l'église m'enverra, et puis donc au moment où j'étais ordonné prêtre, d'abord diacre en 2007, j'appartiens à une société missionnaire, les missions étrangères de Paris, qui depuis 360 ans envoyait 4500 prêtres français à travers l'Asie, fonder les églises locales de l'Inde au Japon, la Chine, le Vietnam, et on reçoit un pays à vie. Et donc en 2007, mon ordination diaconale à Aix-les-Bains, le 6 juillet, j'ai reçu donc ce pays de mission à vie en Inde. Enfin, mes supérieurs savaient que j'avais déjà eu 3 années dans les bidonvilles et que pendant mon temps du séminaire, j'allais retrouver de temps en temps les amis indiens. Donc ils n'ont pas voulu créer un divorce et ils ont plutôt confirmé ce mariage au long cours avec l'Inde. Et donc je suis, après mon ordination de prêtre en 2008, la fin de mon doctorat en théologie, donc je suis arrivé de nouveau, je suis revenu de façon permanente à Bénarès en 2012, appelé par l'église de Bénarès. Donc Bénarès est une ville très emblématique dans l'Inde. On dit que c'est la capitale de l'hindouisme, c'est le Vatican des hindous. Alors, vous avez peut-être tous vu ces images, le Gange qui coule au bord de cette fleuve et tous les matins, des milliers de pèlerins, hein, comme on trouvait tous les jours des pèlerins qui viennent à Lourdes ou dans nos grands sanctuaires chrétiens. Donc tous les jours, il y a des milliers d'hindous qui viennent à Bénarès et qui descendent le matin face au soleil levant se baigner dans le Gange. Donc, c'est la grande ville par excellence de l'hindouisme. C'est une ville aussi qui comporte 8 religions, dont en particulier l'islam, 35% de Bénarès. Et on vit à Bénarès aussi sur une histoire très compliquée de presque 1000 ans, en fait, de lutte entre hindous, musulmans, des destructions, et puis une mémoire qui ne guérit pas. Surtout qu'aujourd'hui, je vais en reparler un petit peu tout à l'heure, on a les hindous fondamentalistes au pouvoir, et qui ostracise, qui exclut de plus en plus les musulmans. Donc on vit cette ville qui à la fois a le miracle de comporter 8 religions ensemble, et qui se connaissent, qui se fréquentent, il y a des liens qui sont tissés, et puis qui en même temps sur une situation politique de plus en plus compliquée. Alors il y a donc dans Bénarès, qui est une grande ville, enfin pour nous c'est une grande ville, en Inde c'est une petite ville de 2 millions d'habitants. On a 3000 catholiques, on a un évêque, on a un diocèse, des congrégations religieuses. Je vois Sœur Jonah qui est là, mais tes sœurs ne sont pas à Bénarès, mais beaucoup de religieuses sont là. Et moi, j'ai une affection particulière pour nos religieuses apostoliques. Les plus anciens d'entre vous vous souvenez du temps des religieuses qui faisaient l'école, qui étaient dans les hôpitaux, ces religieuses qui connaissaient toutes nos familles, qui étaient encore peut-être plus insérées dans nos histoires de nos familles, qui étaient les prêtres, même si les prêtres venaient, mais ces religieuses si précieuses que nous avons un peu perdues en France. Alors heureusement, voilà, on voit Jonah, on voit les sœurs indiennes qui reviennent. Mais donc l'Inde est très riche de ces religieuses qui font un travail admirable. On les trouve partout, dans des endroits assez incroyables. Donc ça, c'est le diocèse de Bénarès. Et donc moi, avec 3 communautés de sœurs, on est présent dans le cœur le plus sacré de Bénarès, là où il y a les temples hindous, les lieux de formation pour les prêtres hindous. Donc 3 communautés de sœurs, les sœurs de Charles de Foucault. Certains d'entre vous connaissent les petites sœurs de Jésus, fondées en 1938. C'est ces sœurs qui partaient avec les gitans, qui partaient dans le désert, qui partaient dans les bidonvilles. Certaines même s'étaient fait prisonnières volontairement en Suisse pour vivre avec les prisonniers. Et donc là, depuis 60 ans, elles sont à Bénarès. Cette présence toute simple, chrétienne, au milieu de leurs voisins hindous. Tout le monde les connaît. Tout le monde connaît ses sœurs. Elles sont tout à fait respectées. Et ça fait 60 ans qu'à travers la prière, témoignage très important pour l'hindouisme de savoir que des gens non mariés, c'est-à-dire consacrés, prient. Puis à travers l'amitié, elles connaissent toutes les histoires des familles. Donc depuis 60 ans, en fait, elles ont fait connaître Jésus de cette façon-là. Elles ne sont pas sur un piédestal à prêcher, mais à travers toute cette délicatesse de l'amitié, de connaître toutes les choses des familles et de dire à chacun, voilà, ta vie est précieuse, tes joies, tes souffrances, je les recueille. Donc avec cette petite présence toute simple, elles ont vraiment donné un grand témoignage au Christ. Ça, c'est le premier des couvents. On a Mère Teresa. Vous savez, bon, Mère Teresa, vous la connaissez, une grande figure emblématique de la charité indienne. Donc là, les sœurs accueillent des personnes abandonnées, des personnes qui viennent mourir, aussi des mourants qui sont... Bénarès, c'est une ville où les hindous aiment venir mourir, parce que, vous savez, les hindous pensent qu'on se réincarne. Donc on a des milliers de vies, mais qui meurt à Bénarès est délivré de ce cycle des réincarnations. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent mourir, et certaines sont d'ailleurs abandonnées par leur famille. Donc Mère Teresa les accueille, et là, c'est le témoignage de l'Évangile aussi, de mourir dans la dignité. Ça a été d'ailleurs la première expérience de Mère Teresa dans le mouroir de Calcutta à Kaligat. C'était de récupérer tous ces gens qui mouraient dans la rue et de les faire mourir dans la dignité et de leur révéler à travers cette dignité, à travers ces soins, cet amour. Tous ces jeunes qui allaient aussi avec Mère Teresa comme volontaires, dire « ta vie est précieuse ». Et ça, je vais y revenir d'ailleurs là-dessus parce que c'est de plus en plus pour moi le grand message chrétien « ta vie est précieuse ». Le troisième couvent, c'est un peu comme Sœur de Charles de Foucault. Alors, elles sont à 100 mètres du temple plus sacré de Bénarès, et elles sont là. Alors, je dis souvent, je prends l'image, vous imaginez deux imams musulmans qui iraient frapper à la porte du Vatican. Donnez-nous un terrain pour qu'on y vive, dans l'amitié, dans la prière. Je ne sais pas ce qu'elle serait la réponse. Mais nous, la réponse, c'est que mes sœurs et moi-même, on a été totalement adoptés. Alors, moi, je suis là avec mes sœurs. Donc, c'est d'abord une grande grâce d'être portée par ces sœurs, qui sont des sœurs spirituelles, mais sœurs humaines. Voilà, tous les matins, on dit la messe ensemble. Et puis après, donc, chacun d'entre nous va à ses activités, à la fois les activités parce que très quotidiennes qu'on partage avec tout le monde, c'est-à-dire faire le marché, faire la cuisine. J'ai un peu scandale à Bénarès, je suis le seul prêtre qui n'a pas un cuisinier ou un chauffeur. Mais moi, ça fait partie de la vérité.
Nous non plus.
Hein. Nous, voilà. C'est ce que je dis en France. Allez voir en France comment ça se passe. Donc, on a toute cette
d'ailleurs,
vie.
D'ailleurs, c'est une petite parenthèse, les Africains sont étonnés par ça. Nos prêtres africains, chez eux, ils ont peut-être pas le chauffeur, mais ils ont le cuisinier. Hein. Ouais. Enfin bon, c'est bientôt un autre problème.
Voilà, donc on a ce quotidien de notre vie qu'on partage. Et puis beaucoup de visites. Beaucoup de visites, alors donc de nos voisins, de nos amis. Alors les sœurs, voilà, je vous dis, ils connaissent la vie de tout le quartier. Et puis, par exemple, les sœurs qui sont près du temple sacré ont un petit dispensaire. Alors les gens viennent au dispensaire demander quelques médicaments aux sœurs. Mais ils viennent pas pour ça, en fait. Ils viennent s'asseoir pour parler avec les sœurs et puis leur confier énormément de choses. Si vous avez vu le film Des hommes et des dieux, vous vous souvenez, la clinique du frère Luc, en fait, tout le village de Tibérine vient s'asseoir auprès du frère Luc et confier les secrets, confier les joies, confier les souffrances. Et nous, on est là pour ça. On est là pour ça. Moi, ce lien, je le vis très fort avec des jeunes, en fait, des jeunes étudiants brahmanes.
Donc, explique ce que c'est.
Alors, un brahman, c'est. Vous savez que l'Inde a différentes castes. La société indienne est répartie en différentes castes. Et donc, en fait, les prêtres de l'hindouisme sont uniquement issus de la caste des brahmanes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus riches que les autres, généralement pas du tout. Mais voilà, il y a une tradition de père en fils d'être prêtre et donc de prêtre dans le temple. Et ça demande des grandes études, 15 années d'études extrêmement poussées, le sanskrit, enfin les écritures sacrées, que je fais aussi d'ailleurs parce que ça m'a permis d'être reconnu par eux, voilà, ils disent, tu apprends le sanskrit comme nous, tu lis les Upanishads, la Bhagavad Gita, les textes sacrés comme nous. Mais ces jeunes, en fait, c'est ça qui me touche de plus en plus, ce que je pense à vous. Je dis souvent... Il y a quelque chose dans le christianisme. Puis alors en France, il y a quand même... Parce que, alors les chrétiens indiens me disent « Oh, l'église de France, elle est toute petite, c'est fini, la fille aînée de l'église, elle a disparu. » Ah, je dis « Ouais, ça tout dépend comment vous regardez les choses. » Prenons par exemple le cas des jeunes. Moi, je vois, dans le diocèse de Bénarès, on ne fait quasiment rien pour les jeunes. Et je dis, mais c'est une honte, parce que c'est eux l'avenir de l'Église. Faites rien pour eux, ben vous allez les laisser partir dans la nature. Et quand je vois toutes les propositions quand même qu'on peut trouver en France pour accompagner les jeunes, ça, c'est, il y a vraiment quelque chose de beau dans cette Église de France. Et alors, vous voyez, ces jeunes qui sont hindous, en fait, ils seraient chrétiens d'un certain... Bon, ce serait différent, mais au fond, ils me confient tous leurs rêves, ils me confient leurs questions. Et ils me disent souvent, alors moi je les taquine un peu ces jeunes, je leur dis, mais est-ce que tu me racontes là de si profond sur ta prière ou sur ta famille, sur cette blessure-là? Je dis, mais moi je suis un prêtre chrétien, mais pourquoi tu ne vas pas voir le gourou hindou? Elle me dit, mais Yann, ou certains m'appellent Father Yann, m'appellent Père Yann, hein, ils sont hindous mais ils m'appellent Father Yann. Ben, le gourou, il est là sur l'estrade, il donne son enseignement. Et nous, on n'a qu'à l'écouter. Mais il ne nous écoutera jamais.
Ah bon ? Ah ouais.
Ben oui, le gourou hindou, il n'est pas fait pour écouter. Il n'est pas fait pour se tenir silencieux et t'offrir un espace de liberté et de secret où tu peux dire ce qui habite ton cœur, en fait. Et ça, vous voyez, ça, c'est là, ce que j'appelle la nouveauté du christianisme. C'est, à travers cet espace de parole, là, je prends un exemple qui est une partie de ma vie, mais... À travers cet espace de parole, on révèle que tu es unique, tu es précieux. Ta vie a du sens, en fait. Et ce que font les sœurs de Mère Teresa admirablement avec les plus pauvres des pauvres, en fait, à travers ce soin. Parce que pour l'hindouisme, vous savez, quand on se réincarne, s'ils sont handicapés dans cette vie-là, c'est dans une vie précédente, c'était des malfrats. Donc, si tu es handicapé, c'est une punition. Tu l'as bien cherché dans une vie précédente. Mais ce soin du corps... Quand on voit tous ces jeunes aussi occidentaux qui viennent avec Mère Teresa et qui apprennent à découvrir le sens d'une présence sans mots, mais le soin apporté au corps, le toucher. Et ça, on est tous pareils. Enfin, on sait très bien. Regardez la grande souffrance dans les maisons de retraite quand les personnes vieillissent, elles ne sont plus touchées. Là, il n'y a plus de toucher, de contact avec les mains. Et donc, à travers ce toucher, on dit, voilà, tu es unique, tu es quelqu'un, tu es une personne. Et ça, je crois que c'est une des grandes révolutions du christianisme. Une autre révolution du christianisme, c'est un grand mot un peu de dire révolution, mais je le crois vraiment, mais en même temps on le vit dans l'humilité de ses contacts, de ses amitiés, c'est la liberté intérieure. C'est, alors comment dire, si vous lisez saint Paul, il parle de liberté à longueur de journée. Mais vous savez, quand on est hindou, d'abord, on ne choisit pas sa religion. Voilà, on est né hindou et puis on restera hindou. Alors d'autant plus aujourd'hui avec les fondamentalistes au pouvoir, il ne s'agit pas de changer de religion. Alors moi, j'appartiens aux missions étrangères de Paris, mais je ne dis jamais « I am missionary ». Parce que eux, missionary, c'est « je viens détruire ta culture et te convertir de force avec de l'argent ». Ce que je ne fais pas du tout. Hein. Je ne détruis pas la culture, j'apprends du sanskrit. Je ne te convertis pas de force, mais si tu veux, oui, la porte est toujours ouverte. Et je ne te donne pas d'argent parce que je ne suis pas là pour ça. Et ce que font les pentecôtistes. Donc, on ne choisit pas sa religion, on ne choisit pas sa caste. En fait, tout est un peu déterminé. Tout est déterminé. Nous, à 17 ans, on quitte nos parents, on choisit notre métier. On choisit notre femme, d'ailleurs, parce qu'en Inde aussi, les mariages sont arrangés. Bon, c'est une institution. Mais alors, pour beaucoup de choses, en fait, tout est décidé pour eux. Et il n'y a pas cette liberté... Et ça, c'est quelque chose qui les frappe. Et quand ils voient, par exemple, ils disent, mais pourquoi ces jeunes volontaires, là, chez Mère Teresa, pourquoi est-ce qu'ils ont quitté leur pays, là, pendant un mois, deux mois, et puis ils se mettent au service des plus pauvres ? Je vais parler plus fort. Pourquoi, non,
c'est bon, ça va revenir.
Pourquoi ils se mettent au service des...
Non, ils sont...
La ville nous
attend. La question c'est
5-10 minutes,
c'est plus bon. Pourquoi ces jeunes venus de l'Occident se mettent au service des plus pauvres? Parce qu'eux, ils sont tellement pris dans des schémas qu'il ne faut pas s'approcher du plus pauvre. Mais voilà, parce qu'ils sont libres et parce que l'amour rend libre. Donc, ça, c'est une façon pour nous, vous voyez, parce qu'on dit souvent, t'es missionnaire, à quoi tu sers? Tu ne fais pas de baptême. Et c'est une façon de transmettre, en fait, la nouveauté de Jésus. Et une autre chose, c'est que, ce que je dis un peu dans l'homélie, on est une toute petite église, mais à Bénarès, on essaye d'avoir
un impact social. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec toutes les tensions religieuses de l'Inde, finalement, le lieu où on peut, les religions des différents chefs religieux de Bénarès peuvent se réunir, c'est dans l'église catholique. Je pense à... on commence Noël, les fêtes de Noël. Noël est très connu à Bénarès, nos frères hindous aiment beaucoup Noël et tout ça, mais Noël, les fêtes de Noël à la cathédrale commencent par on réunit tous les leaders religieux et bien plus largement, et on a cette rencontre interreligieuse. Et là, l'église devient un lieu de communion. Et ça peut servir des fois, parce qu'en 2004, quand les fondamentalistes musulmans ont mis des bombes, que les hindous étaient prêts, tout le monde était prêt à sortir les couteaux et à se trucider, à faire des milliers de morts, ils se sont dit, avant de passer au couteau et au poing, il faut qu'on se parle. Et le seul lieu pour musulmans et hindous de se parler, c'était chez l'ami commun qui était l'évêque de Bénarès.
Ah ouais.
Voilà, donc c'est cette petite vie toute simple, mais qui à la fois touche beaucoup de choses. Beaucoup... Je dis souvent qu'à Bénarès, en fait, je touche beaucoup de choses, des questions que se pose le monde aujourd'hui. La montée des fondamentalistes, des identitaires, des... Voilà. Et puis donc un peu du Népal maintenant pour des raisons voilà. Un peu de Népal pour des raisons.
Pourquoi le Népal maintenant?
De visa. Alors le Népal est à côté de Bénarès, hein, c'est à 40 minutes en vol. Et pour des raisons de visa, parce que je n'ai pas un visa en tant que prêtre pour rester en Inde. Donc je suis obligé, j'ai eu un visa d'étudiant de nombreuses années, maintenant j'ai des visas de touriste. Donc je suis obligé un peu de jongler avec mes visas. Mais ça va. Et puis je vais passer les 3 mois d'été au Népal. Là j'arrive de Katmandou. Il y a d'ailleurs une étole faite à Katmandou. Et alors le Népal, quand je suis parti le 1er avril, j'ai dit, oh Yann, t'es fou, à ton âge, à 43 ans, à aller encore un nouveau pays, une langue, la 10e langue à Siné.
La 10e langue, voilà.
J'ai dit, t'es un peu fou. Et alors le Népal m'a... Parce que c'est à la fois, c'est la même culture, c'est hindou, mais à la fois c'est totalement différent, on n'a pas la question politique, les fondamentalistes. Quand j'arrive à Katmandou, je me sens un peu relax parce qu'on n'a pas toute cette pression qui nous traverse. Vous savez, moi, ma vie n'est pas en danger, je ne pense pas, mais ça traverse toutes ces tensions. Quand j'arrive à Katmandou, c'est plutôt relax, mais vous aviez tous dit, hein, du groupe Katmandou est différent. Et alors, j'ai commencé Népal. Alors là, c'est tout à fait un peu étonnant, c'est les imprévus pour moi, c'est... 5 derniers mois à prendre le népalais et à commencer à faire un peu mon trou. Chaque année, j'irai les 3 mois d'été. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est les imprévus du Népal. Alors, j'en donnais plusieurs. Mais voilà, des jeunes hindous brahmanes, donc la caste des prêtres, qui me disent, de toute façon, nous, on a le droit de choisir notre religion. Alors, ce qu'on n'entendrait jamais à Bénarès, parce que Bénarès, on ne choisit pas sa religion. On est dedans, dans cette identité qui est un carcan. Et puis... deux d'entre eux me disent « Mais on voudrait que tu nous baptises. » Alors, je disais souvent, j'avais toujours... Je disais souvent en rigolant, c'est pas que je prie, on ne me pose pas la question. Mais si quelqu'un me posait la question à Bénarès, ce ne serait pas évident. Parce qu'à la fois pour eux, être chrétien, c'est être mis, rompre avec la famille, mis au banc de la société. Et pour l'Église aussi, d'assumer de personnes, des brahmanes qui arrivent comme ça. Donc, ce n'est pas simple. Et donc, au Népal, c'est possible. On va cheminer petit à petit. Mais à la fois, des très belles âmes. Alors là, on touche des jeunes qui se posent une sensibilité spirituelle très forte. Donc ça, ça a été un imprévu du Népal. Un autre imprévu, ça a été des couples mixtes. Il y a une toute petite église au Népal. Ce n'est même pas un diocèse. On appelle ça un vicariat apostolique. Donc c'est vraiment une toute petite poignée. 7000 catholiques sur tout le Népal, qui est un pays quand même assez large. Et donc, il y a des couples mixtes, elle chrétienne et lui hindou, donc népalais. Alors, j'en ai rencontré certains. Alors, c'est tout à fait étonnant parce que, alors, la chrétienne, voilà, les chrétiens viennent d'un monde. Alors, c'est pas totalement le cas au sud de l'Inde parce que le sud est différent, vous êtes beaucoup plus nombreux. Mais là, ce sont des chrétiens qui viennent généralement donc, du nord de l'Inde, qui ont vécu dans des petits mondes assez clos et qui ont dû se protéger avec une identité forte. Alors elle, l'épouse chrétienne, qui disent oh « ben, si je vais à la prière avec mon mari hindou, parce que le mari est resté hindou, que va dire l'église? Est-ce que je vais perdre ma foi ?» Alors moi je dis « Non, non. » Bon, alors il y a ce côté-là. Et puis alors il y a le mari hindou qui me dit « Ah ben pour une fois j'ai rencontré un curé qui me comprenait. » Alors la femme qui dit oui, oui, parce qu'il connaît mieux les écritures que toi. Et alors, donc ça, c'était une très belle rencontre, parce que c'est quand même pas évident un couple mixte. Hein. C'est un challenge quand il y a deux religions différentes, la question de l'éducation des enfants. Et avant de partir, ben, j'ai le groupe des couples, comment on appelle ça, comme les équipes Notre-Dame, enfin les groupes des couples, là, vivre et aimer, vous avez ça ici, qui sont venus me dire, écoute, Yann, avec ton expérience à Benares, on a besoin de toi quand tu reviens au Népal l'été prochain, rencontrer ces couples et leur parler, justement, la question, comment vivre. Et j'étais touché parce qu'ils ont lu, j'ai écrit un bouquin l'an passé qui s'appelle Prêtre à Benares, qui a été traduit en anglais, donc ils ont lu la traduction anglaise, ils me disent, mais ce que tu vis avec hindou, musulman, chrétien à Benares, c'est exactement ce qu'un couple mixte vit au quotidien. Elle, chrétienne, lui, hindou. Et il nous dit, tu peux nous aider. Voilà. Plus des sœurs qui sont toujours en demande. Ces sœurs qui font un travail magnifique aussi au Népal, dans des lieux incroyables. Il faut aussi que nous, comme prêtres, si on peut les aider un peu spirituellement, à travers la messe, à travers des confessions. Donc je sais que mes 3 mois au Népal seront très pris et d'une nouvelle expérience. Mais je garde évidemment la base à Benares.
Et c'est dans un ashram, là, ou pas?
Alors,
au final.
Oui, j'ai trouvé, donc au Népal, oui, une partie sera dans un ashram en silence. Donc une partie à Katmandou, parce qu'il y a tous ces liens nouveaux. Hein, qu'il y a,
voilà. Et l'ashram, c'est quoi l'ashram que tu veux faire?
C'est la grande chartreuse en Inde, c'est ça, au Népal?
On est en train de faire la compétition pour l'ashram avec les... Toi, dis ce que c'est qu'un ashram pour toi.
Un ashram, c'est le lieu où vit un prêtre qui peut recevoir, faire de l'accompagnement ou faire des propositions spirituelles, des mini-retraites, des tout ça. Ça, je vais faire ça, moi. Je le fais déjà.
Et offrir longtemps. Du silence, je pense aussi que offrir du silence aux personnes, ça, c'est important.
Ouais. Peut-être ça, du silence, de méditation, plus que de la pastorale. Mais bon, il y avait un peu, comme tu l'as dit, le spirituel est la source de tout le reste. Alors, quand on n'aura pas tout le reste, il restera la source.
Voilà, donc, évidemment, comme vous avez remarqué, on est très complices avec René depuis des années.
Ouais.
Et puis, c'est vrai que je crois que l'un et l'autre, on est un peu engagés sur une même visée, là. Et c'est sûr que ma vie indienne, parce que l'Inde, en fait, l'Inde demande, en fait, à nous prêtres et aux religieuses qu'on soit avant tout des témoins de l'absolu. Moi, quand je vois ces jeunes brahmanes de Katmandou, en fait, la première chose, c'est qu'ils parlent, c'est de leur prière. Ça, c'est très étonnant. Quoi.
Voilà, ben on va laisser.
Merci pour votre attention.
On va se préparer au pique-nique. Merci. Hein. Merci. Merci. Et voilà,
donc, on partagera ce qu'il y a. Pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus, donc il y a un livre, je crois qu'il est... il y a un dépôt chez la librairie Guérin. Là, comment c'est
Guérin.
Guérin. Il s'appelle Guérin, prêtre à Benares. Sinon, vous le trouvez sur Amazon et...